Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Alors pour RVM, voici la seconde partie de l'émission consacrée à l'IME, la faisanderie dans la forêt de Compiègne, donc IME, Institut Médico-Éducatif. Je suis en compagnie de Jean-François Vattier, qui est directeur de cet établissement, et de Karine Duteil, qui est une enseignante de l'établissement et qui va nous raconter ce qu'elle vit.
Karine Duteil, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton expérience d'enseignante ici ?
Je vais essayer. C'est difficile d'avoir du recul. C'est très.
Comment ça se passe pour toi ? Tu peux aussi parler comme ça.
Ça fait 12 ans que je suis là. Les collègues sont là depuis plus longtemps. Soit on reste, soit on part, quoi.
Tu es bien.
Ah, moi, j'y suis bien. Enfin, je peux pas dire que j'y ai toujours été bien. C'est pas un métier facile du tout. Chaque élève qui arrive, c'est un nouvel enjeu, un nouveau défi aussi, parce que. C'est aller à la rencontre de l'autre avec son fonctionnement, avec toutes ces choses non verbalisées qu'il va mettre en scène et que je ne vais pas forcément comprendre tout de suite et qui vont compliquer mon métier d'enseignante tel qu'on se le représente en général. Déjà, en étant enseignante, on découvre que l'école, ce n'est pas celle qu'on a connue en étant sur le banc, mais cette fois-ci de l'autre place.
C'est de l'autre côté de la barrière,
de l'autre côté de la barrière.
Même s'il n'y a pas forcément de barrière.
Déjà, c'est très différent. Mais alors là, en plus, dans le métier d'enseignante spécialisée, c'est un métier qui doit se réinventer à chaque instant. Pour m'ennuyer à un endroit, j'attends toujours d'avoir le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Ici, je ne l'ai jamais eu, c'est pour ça que je suis toujours là.
Oui, parce qu'en fait, on peut même imaginer que ta pratique de 12 ans, en fait, t'aides forcément un petit peu dans ton métier, mais tu vas de surprise en surprise.
Ah non,
oui. Parce qu'à chaque fois, c'est individualisé avec les élèves, donc j'imagine, de toute façon, chaque personne est différente.
Hein, oui.
Donc tu ne peux pas être dans un ronron, en fait, c'est pas
non,
possible.
Non, c'est pas possible. Alors, on peut trouver des grandes lignes quand même. Dans la difficulté scolaire, il y a quand même des grandes lignes, heureusement, auxquelles se raccrocher. Mais après, c'est dans la relation humaine, puisque la classe est un lieu de rencontre, et pas seulement entre deux personnes, pas seulement entre l'élève et l'enseignante, c'est l'élève et le savoir, l'élève et les autres élèves, donc les interactions entre eux. Il y a un énorme travail de socialisation. Savoir à la fois enseigner comment tu peux te comporter dans cette situation-là avec quelqu'un d'autre, mais sans pour autant nuire à l'estime de soi de la personne. Donc c'est un travail délicat. Un travail délicat qui se fait souvent dans une ambiance un peu brutale. C'est ça qui fait que l'enjeu de ce métier est prenant et passionnant. Et qu'au bout de 12 ans, je ne vois toujours pas la porte de sortie. Enfin, sauf quand ça va très très mal. Parce qu'il y a eu des années où ça allait très très mal. Mais bon, finalement, on dépasse les épreuves. Et puis.
Tu suis les élèves sur plusieurs années ?
Certains, oui,
oui,
parce que les parcours sont individuels, donc il y a eu des élèves, j'aime bien raconter ça m'est arrivé d'avoir une élève que j'ai eu 2 mois dans la classe. Donc elle a eu une place assez rapidement, elle est arrivée assez tard en âge dans ma classe. Ils arrivent vers 14 ans, ils partent au maximum la veille de leurs 21 ans, mais c'est l'extrême maximum, normalement c'est bien avant, pour aller en IM Pro quand c'est possible, donc c'est plutôt normalement 16 ans le départ. Est-ce que je devrais dire normalement ? Chaque mot est compliqué, hein. C'est difficile de parler de ce métier sans dire « non, ça ne faut pas le dire comme ça ».
C'est pas grave, c'est intéressant du coup.
Ça m'intéresse ce que vous racontez, parce que moi je tenais un discours de directeur, c'est-à-dire avec un projet, enfin voilà.
Oui.
Je présente un établissement très tourné vers l'émancipation des personnes qu'on accueille.
Oui.
J'ai dit au début, c'est un établissement spécialisé, on a dit IME, c'est un lieu où on accueille de la différence. Mais aussi on accueille de la difficulté. Enfin, vous avez parlé de brutalité, je me suis arrêté sur ce mot. Je crois qu'un établissement, il doit avoir deux qualités principales. C'est déjà un asile pour des symptômes. C'est-à-dire que c'est un lieu où doit régner une certaine forme de tolérance parce que les enfants qu'on accueille expriment à leur façon, comme le font les enfants. C'est-à-dire les enfants, ils ne raisonnent pas leurs difficultés. Ils les expriment par l'agir. Alors l'agir, ça peut être un agir passif, c'est-à-dire ça peut être de l'inhibition, ça peut être quelque chose de fermé, ça peut être de la non-envie d'apprendre, ça peut être du refus, voilà. Hein, mais en tout cas, la matière humaine est une matière complexe. Et donc on a, nous, ici, cette première mission d'essayer de comprendre un peu la problématique de la personne qu'on accueille. Donc c'est déjà un asile pour des symptômes. Et quand je dis asile, c'est un joli mot, le
c'est
mot
refuge,
asile.
C'est refuge, en fait.
Un refuge. Hein,
oui,
voilà.
Je vois très bien. Alors, ouais.
Bon, c'est à la fois vrai d'un point de vue géographique.
Parce un lieu d'accueil,
on est
c'est
un
exactement
peu à
ça.
C'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprocher aux enfants qu'on accueille les difficultés qu'ils expriment. Bah, on est là pour travailler avec ces difficultés-là. Et donc il faut à la fois tenir ça, et tenir aussi de l'espérance et du projet, donc vers ce qu'on disait tout à l'heure, de l'insertion, des choses comme ça. C'est une longue histoire, et c'est le travail d'une équipe. C'est-à-dire que Karine, elle parlait de sa clinique d'enseignante, c'est-à-dire ce qu'elle vit, ce qu'elle rencontre au plus près des enfants. Et ça, ça doit se nouer avec celle des éducateurs, avec des fois l'éclairage des psys, parce que c'est... Le travail avec les familles, c'est-à-dire qu'on travaille avec les jeunes, mais on travaille aussi avec leurs parents,
énormément. Hein,
qui ont aussi beaucoup d'inquiétudes pour leurs enfants, ou qui des fois ont des difficultés pour comprendre leurs enfants. Tout ça est une longue aventure.
Et donc du coup, pendant la période de confinement, j'imagine que la plupart des élèves sont retournés dans leur famille.
Oui.
Et comment ça s'est passé? Vous avez eu des échos de ça?
Oui, parce que là aussi, c'était notre engagement. C'est-à-dire que nous, comme on est dans l'Oise, on a fermé assez tôt, finalement. On a commencé à être concernés par cette affaire tout début mars, puisqu'il y avait des enfants qui viennent de différentes communes, très proches, finalement, mais qui étaient déjà ce qu'on appelait des clusters. Partiellement, il y a des enfants qui n'ont pas pu venir. Et puis après, le 9 mars, il y a une fermeture des écoles de l'Oise, et les établissements spécialisés se sont aussi mis en arrêt d'accueil pendant un petit moment. Mais le parti pris ici, ça a été dire, c'est d'assurer la continuité de l'accompagnement des jeunes. C'est-à-dire que c'était pas parce qu'ils n'étaient pas présents physiquement dans l'établissement que pour autant on suspendait nos missions par rapport
à... Il y a eu des cours à distance.
Il y a eu des cours à distance, donc Karine a fait ça. Et puis un contact, on a maintenu du lien, au départ par téléphone parce que nous-mêmes on était confinés, mais le personnel des établissements médico-sociaux a été considéré par le ministère de la Santé comme indispensable à la gestion de la crise, comme le personnel des hôpitaux. Donc on a une mission, on est financé par la Sécurité sociale, et donc on a une mission sanitaire et sociale entendue au sens large. Donc on devait être là. Donc l'équipe qui a pu être là, parce que les salariés étaient aussi concernés par des problématiques de garde d'enfants, parce qu'ils sont aussi parents d'élèves. On a une équipe réduite à peu près de 50%, mais qui est restée mobilisée pour toujours maintenir le contact avec les familles et les aider à tenir le confinement avec des enfants qui ne sont pas toujours faciles à prendre en charge à la maison.
Oui. Et ça a fonctionné.
Ça a fonctionné. On a eu sur... Donc ça a duré 3 mois et demi, cette affaire, mars, avril, mai, juin. Hein, parce qu'on a déconfiné, nous, très, très progressivement et très prudemment. Et sur les 80 jeunes accueillis dans l'établissement habituellement, on a eu 4 alertes de situations plus difficiles que d'autres.
D'accord.
Au départ, c'était vraiment du travail à distance. Et puis, petit à petit, on a proposé ce qu'on a appelé du dépaysement, c'est-à-dire la possibilité d'aller chercher des enfants chez eux, individuellement, pour faire souffler la famille et faire souffler l'enfant.
Et donc, il y en a qui sont revenus ici
en
juin.
Donc là, aujourd'hui, on accueille à peu près 80% de notre effectif, mais sur des modalités adaptées. C'est-à-dire qu'on n'a pas réouvert nos internats. Et les enfants viennent à la journée en fonction du souhait des familles. Donc certaines des familles nous disent, nous, 2 jours dans la semaine, 3 jours dans la semaine. Donc on a complètement réécrit notre façon de travailler. On s'est adapté parce que c'est aussi notre mission. Bon, voilà, c'est une grosse machine, hein, pas toujours facile à bouger. Mais là, elle a fait preuve de souplesse, l'équipe a fait preuve d'inventivité, d'une vraie solidarité. Et en plus des enfants accompagnés habituellement par l'établissement, ces 80, on a fait le choix pendant la période de confinement d'aller renforcer les maisons d'enfants à caractère social. C'est-à-dire les enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance, sur Compiègne, sur Choisy-au-Bac, sur Tracy, parce que c'était le seul lieu où finalement le collectif d'enfants était maintenu ensemble pendant cette période longue et où on a demandé à des enfants d'arriver à tenir. Donc on a été renforcer les collègues localement. C'était riche, c'est un enrichissement pour tout le monde. Une période pas facile, on n'en est pas sorti. Donc là, notre question, ça va être de savoir comment on va aborder la rentrée de septembre, avec des données qu'on ne connaîtra qu'en septembre.
Et pendant le mois de juillet, donc il y a des animations qui sont proposées ici parce qu'ils sont en vacances. Hein.
Oui, alors il n'y a plus de temps de classe. Il y a la poursuite d'un travail éducatif et c'est vrai qu'on va travailler autrement. C'est-à-dire qu'on va plus les accompagner vers des activités de loisirs, des activités récréatives, avec un rythme différent.
Et en août, l'établissement est fermé.
Ouais.
Nous parler de la recyclerie?
La recyclerie, c'est un projet éducatif, c'est-à-dire que oui, ça pourrait compléter la présentation. Donc on a parlé d'un secteur enfant, d'un secteur d'adolescents, jeunes adultes, qui n'était pas tellement éloigné de la question du travail ou d'un projet professionnel, même en milieu protégé. Et puis on a ici un autre groupe qui s'adresse aux grands aussi, mais qui sont plus en difficulté par rapport à la question de l'exigence de gestes techniques ou de préparation à un métier. Et donc c'est créé ici une unité particulière qui s'appelle UPAJA, pour Unité pour Adolescents et Jeunes Adultes. Donc ils proposent des activités pour des grands, mais plutôt sur des modalités de conditionnement, d'activités techniques plus simples, peut-être un peu plus répétitives, mais qu'on tient à finalement beaucoup plus valoriser. Finalement, il faut un peu renverser l'argument. Les personnes ici accueillies qui seraient les plus démunies, on va peut-être leur proposer des activités encore plus valorisantes que pour les autres. Et donc dans cet atelier, là, tenu par deux éducatrices qui sont très inventives, un peu artistes, voilà, c'est-à-dire que pour faire ce métier, il faut avoir un certain nombre de talents et beaucoup d'envie.
Et de créativité.
Donc elles font des choses jolies, elles font des choses valorisantes qui peuvent être vendues, qui pourront être exposées. Et puis elles inscrivent ça dans des échanges. C'est-à-dire que c'est tout le projet recyclerie, c'est-à-dire de récupérer un certain nombre de choses et puis de
travailler aussi,
transformer. Et puis, et puis avec tout un projet autour de l'éco-citoyenneté, quoi. Ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, est un projet de société qui peut être intéressant.
Ce sont des belles valeurs. Voilà.
Ici, dans l'établissement, on fait du tri, on trie le papier, on essaye de ne pas gâcher, on récupère tout ce qui peut se récupérer. Mais donc, ça nécessite de la manutention. Mm-hmm. Et donc, c'est une occupation utile, valorisante, pour un certain nombre de nos jeunes. Et les jeunes ont bien compris, hein, ils nous ont fait des exposés sur les bons gestes éco-citoyens. Ouais, ils ont vraiment bien pigé le truc.
Et donc, ma dernière question, c'est, on avait déjà un petit peu abordé ça tout à l'heure, vous avez des échos de chaque élève, une fois qu'ils ont quitté l'établissement, pour voir ce qu'ils sont devenus ? Est-ce que ça, c'est intéressant de savoir en fait si...
Il y a une personne qui est chargée du suivi, même plusieurs.
Oui, oui.
Souvent, ils reviennent, ceux qui sont autonomes, ils reviennent. La pré-rentrée de cette année scolaire passée, il y a trois jeunes anciens qui sont revenus. Donc deux qui étaient en couple ensemble, l'autre qui venait annoncer et qui attendait un bébé, et le troisième qui venait annoncer qu'il avait son permis de conduire, là, il y a un emploi en boulangerie, et ils étaient venus dire merci.
Ouais.
Merci. C'est un lieu où ils se sont construits, et souvent ils aiment y revenir, ils essayent de garder des contacts par les réseaux sociaux. Ouais. Des choses.
Mais voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est que chacun puisse avoir une trajectoire qui soit la sienne. C'est-à-dire que ce n'est pas une filière forcément pour aller après vers d'autres établissements spécialisés. Ce qu'on attend dans l'établissement, c'est de pouvoir que chacun puisse construire son projet, quoi. Donc certains vont travailler en milieu ordinaire. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont signé des contrats. Je me souviens d'un jeune qui défrayait un peu la chronique dans l'établissement parce qu'il ne venait pas, il y avait de l'absentéisme. Alors l'équipe n'était pas très contente. Mais finalement, on se rendait compte qu'il ne venait pas dans l'établissement alors qu'il y était encore inscrit parce qu'il signait des missions d'intérim. Et donc j'avais dû expliquer à l'équipe que c'était bien,
oui,
quand même.
Plutôt positif.
Voilà, mais ça, c'est le bon travers des équipes en général, c'est qu'elles ont beaucoup donné et des fois à la fin elles ont un peu du mal à lâcher, quoi.
Bon, merci beaucoup Jean-François Vattier et Karine Duteil. À bientôt, bonne
merci
continuation
à
tous. Hein.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Jean-François Vattier, qui est directeur de l'IME La Faisanderie, donc l'Institut médico-éducatif, et également Karine Duteil, qui est une des enseignantes de La Faisanderie. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.